Sandra Viscardi.
La conférence sur le déminage en Ukraine s'est ouverte tout à l'heure à Lausanne avec l'annonce par Viola Amert de la livraison à l'Ukraine de 3 machines de déminage fabriquées par une entreprise suisse, leader du marché. Outre ces engins, un encadrement des acteurs ukrainiens fait partie du partenariat. Les sénateurs kényans voteront ce soir sur la destitution du sulfureux vice-président Rigathi Gachagua, accusé de détournement de fonds, trafic d'influence, acquisition frauduleuse d'hôtels et d'appartements. L'Assemblée nationale a approuvé à une écrasante majorité la semaine dernière une motion de destitution contre ce vice-président en conflit ouvert avec le chef de l'État William Ruto depuis plusieurs mois. Les sénateurs devraient leur emboîter le pas selon les médias locaux. Les États-Unis ont frappé cette nuit 5 dépôts souterrains de munitions des rebelles houthis au Yémen à l'aide de bombardiers stratégiques furtifs B2. Selon la chaîne de ces rebelles qui soutiennent la cause palestinienne, les 15 frappes ont touché des sites au nord et au sud de la capitale Sanaa et le gouvernorat de Saada au nord-ouest. En Suisse, les cantons entendent améliorer la situation des enfants et des jeunes vivant dans la pauvreté. Une étude montre que les prestations d'aide actuelles sont insuffisantes et qu'il existe des lacunes dans la couverture du minimum vital. En 2022, leur taux d'aide sociale chez les moins de 18 ans s'élevait à 4,8%. Ça représente la valeur la plus élevée parmi toutes les classes d'âge. Le prestataire de services informatiques bernois Xplain, cible d'une attaque par rançongiciel qui avait notamment touché FedPol, les polices cantonales et les CFF l'an dernier, passe sous pavillon allemand, racheté ainsi que sa partenaire Xplain Iberica par Chapsers Group. C'est une société d'investissement dans les PME. Elle est basée à Hambourg, elle est cotée à la bourse de Francfort. Le montant de la transaction n'est pas rendu public. Les Bernois voteront le 9 février prochain sur l'initiative populaire des Verts, dite Initiative solaire bernoise. Le conseil exécutif bernois rappelle que le texte fait l'objet d'un contre-projet du Grand Conseil. L'initiative veut obliger à poser des panneaux solaires sur les nouveaux bâtiments et avec une période transitoire sur les édifices existants si les toits et les façades s'y prêtent. Uber a lancé une nouvelle fonctionnalité sur son application de véhicule avec chauffeur permettant aux voyageurs de 13 à 17 ans d'effectuer des trajets sans être accompagnés. Une phase pilote démarre dans les prochains jours à Genève et Lausanne. Le service est déjà en application en Amérique du Nord ainsi qu'au Portugal. En fait, les parents qui le souhaitent peuvent créer un compte famille sur l'application Uber. Ça permettra à leur adolescent de réserver des trajets directement via leur smartphone et de les effectuer tout seul. La Banque Centrale Européenne devrait décider aujourd'hui d'une nouvelle baisse de ses taux directeurs. Inquiète des signes de ralentissement économique dans la zone euro où l'inflation semble en passe d'être maîtrisée. Les spécialistes s'attendent à une baisse de 0,25 point de pourcentage. Le taux de dépôt de la BCE, qui sert donc de référence pour les conditions de crédit dans l'économie, passerait ainsi à 3,25%. Jusqu'à 40% des financements verts fournis par la Banque mondiale ces 7 dernières années sont impossibles à trouver. C'est ce qu'on peut lire dans le dernier rapport de l'ONG Oxfam, publié ce matin. Il n'est même pas certain que cet argent ait servi à des projets liés à l'environnement, selon l'ONG. Frito misto météo aujourd'hui, de fortes pluies sur la crête sud des Alpes valaisannes et au Tessin, parce que le feu ne souffle dans les Alpes. Il fera grimper le thermomètre à 23 en Valais cet après-midi, 17 ailleurs, sous un ciel changeant avec des précipitations ce matin sur le Jura et l'ouest lémanique.
L'actualité en continu sur l'application RTS Info.
Avec la RTS, plongeons au cœur de la vie aquatique. Salée ou douce, vive ou dormante, du 25 au 27 octobre, l'eau sera le fil conducteur de la 22e édition du Festival Salamandre au Théâtre de Beausobre à Morges. Films, expositions ou spectacles, un événement nature pour comprendre l'importance cruciale de la biodiversité aquatique. Plus d'informations sur festival-salamandre.org. Vous souhaitez assister à l'émission Prise de terre en direct du théâtre le samedi 26 octobre dès 9h. Inscription sur avecvous.rts.ch.
CQFD.
Si vous êtes des fidèles de CQFD, notamment cette semaine, vous le savez, on parle beaucoup de dinosaures, puisqu'on vous propose de découvrir le tout nouveau podcast imaginé par Uma Camis qui s'appelle Quoi de neuf dino. On va retrouver d'ailleurs le 4e épisode dans une demi-heure. On va ce matin s'intéresser en particulier au T-Rex. Et hier, avec Uma, on a beaucoup parlé de météorites, puisque c'est l'impact d'une grosse météorite dans le Yucatan au Mexique qui a conduit à la disparition des dinosaures il y a 66 millions d'années. Des météorites, il va également en être question dans notre séquence actualité aujourd'hui. Grâce à vous, Sarah Dirène, bonjour Sarah.
Mais bonjour Stéphane.
On en sait en effet plus sur l'origine des météorites qu'on trouve sur Terre.
Et oui, la grande majorité provient de... Donc, la majorité de ces météorites proviennent de trois jeunes familles d'astéroïdes. On a dressé leur arbre généalogique, c'est fascinant.
Très bien, on aura des détails avec un invité dans un instant. Et puis enfin, gros plan ce matin sur une inflammation qui touche la colonne vertébrale et le bassin. Théo Chavaillat, bonjour Théo.
Bonjour.
La spondylarthrite, qui est une maladie qui ne laisse que peu de répit dans le quotidien des personnes qui en souffrent.
Et 90 000 personnes sont concernées en Suisse par cette maladie rhumatismale auto-immune qui se manifeste de jour comme de nuit. Ça, vous l'entendrez à travers un témoignage. Et puis on se penchera sur les moyens d'améliorer le quotidien des personnes qui souffrent de spondylarthrite et sur son évolution au cours d'une vie avec Thomas Hügler, chef du service de rhumatologie au CHUV.
Et ça nous attend dans un quart d'heure à peu près cette séquence. Ce sera tout ce qu'on a prévu au menu. J'espère que ça vous convient. Nous sommes en direct jusqu'à 11h. Bienvenue à vous.
CQFD, votre émission de science et de santé. Stéphane Gabiou.
Plus de 70 000 météorites retrouvées sur Terre sont répertoriées, mais d'où viennent-elles principalement? Leur origine est pour la première fois révélée grâce à une équipe internationale menée par trois instituts, dont l'ESO. L'ESO, c'est l'Organisation Européenne pour la Recherche en Astronomie, dont fait partie la Suisse. Les résultats d'ailleurs de cette recherche sont à lire dans la revue Nature, Sarah Dirène.
Oui, et jusqu'à cette découverte, seuls 6% des météorites avaient pu être reliées à leurs sources, notamment celles provenant de la Lune ou de Mars. Désormais, on sait que 70% de toutes les chutes de météorites proviennent de la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Et puis surtout, elles proviennent de trois jeunes familles d'astéroïdes, Charine, Coronis et Massalia. Jeunes familles, puisque leur collision date entre 6 et 40 millions d'années. Cet arbre généalogique a pu être dessiné grâce à des simulations numériques, grâce aussi à l'étude des chondrites. Les chondrites, c'est plus petit que les météorites. Les chondrites contiennent en général des métaux, des minéraux, voire des matières organiques. Et puis, aussi, toutes ces études ont été reliées à l'analyse télescopique des familles d'astéroïdes. Alors, cette méthode innovante, Stéphane, permet également d'identifier l'origine de plus de 90% des météorites. Reste bien sûr un 10% à élucider.
Et on va voir plus de détails sur ces travaux grâce à vous, Pierre Vernazza. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes astronome, chercheur CNRS au laboratoire d'astrophysique de Marseille, co-auteur de cette étude. On a donc ces trois familles d'astéroïdes, Charine, Coronis et Massalia, si j'ai bien retenu ce que Sarah nous racontait. Et donc, elles sont source de beaucoup de météorites sur Terre. Comment ça se fait?
Eh bien, c'est ça un petit peu le point difficile et le fait que finalement ces origines de météorites étaient restées un mystère. Nous avons finalement compris qu'en fait des grosses collisions, et c'est ce qui s'est passé dans le cas de ces trois familles, avec des objets à l'origine qui se sont fragmentés, qui avaient des diamètres quand même au-delà d'une certaine taille, c'est-à-dire 50 km, des grosses collisions vont produire une multitude de fragments. Donc dans le cas de chacune de ces familles, le nombre de fragments au-delà du mètre lors de leur formation dépasse les 10 000 milliards d'objets. Et donc c'est cette quantité faramineuse d'objets qui ensuite va alimenter progressivement le système interne, enfin la partie interne du système solaire, notamment la Terre.
Ok, donc voilà, on a cette image finalement, ces astéroïdes qui se rendent entre les unes contre les autres, bam, ça s'éclate, ça fait des milliards de morceaux, ils sont répartis partout finalement un peu dans l'univers, et puis ben certains arrivent chez nous, en gros, c'est ça?
Exactement, exactement.
Ouais. Oui, mais quand même. Il faut parler de jeunesse aussi, c'est important.
Alors la jeunesse, effectivement, c'est fondamental, c'est-à-dire que ce nombre incroyable de fragments, il ne va pas être là ad vitam aeternam. Hein. Alors donc au moment de leur formation, pour vous donner une idée, pour une collision donnée, le nombre de fragments présents dans la famille équivaut à tous les fragments présents dans toute la ceinture principale, donc ça vous montre l'importance de ces collisions. Mais dans le temps, ces fragments vont rapidement rentrer en collision les uns avec les autres, s'éroder. Et ces familles, elles vont alimenter la Terre pendant un certain nombre de millions d'années, au maximum 30-40, et ensuite laisser leur place à de nouvelles sources de météorites, à de nouvelles collisions qui vont avoir lieu dans la ceinture principale.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas de traces de météorites sur Terre lorsque les collisions sont très 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 vieilles, de, par exemple 2 milliards d'années ?
Alors, bonne question. Alors, 2 milliards d'années, je vous dirais oui. Par contre, et c'était ça qui était incroyable, c'est que pour la source de météorites principale qui vient de la famille de Massalia, dont on appelle ça les chondrites L, qui représentent à peu près 37% des chutes, on avait déjà une signature sur Terre qui remonte à 470 millions d'années dans des carrières de calcaire et dans des strates donc, qui avaient exactement cet âge de 470 millions d'années où des micrométéorites fossiles avaient été retrouvées en très grand nombre. Et ces études, donc c'était une carrière en Suède, et maintenant des évidences ont été retrouvées en Chine qui montrent que c'était vraiment un événement global sur Terre, donc une pluie de météorites qui a à peu près 470 millions d'années déjà de cette famille de Massalia.
Oui, d'accord, une pluie de météorites, mais en fait, l'ancienneté est importante, c'est-à-dire que si des météorites entrent en collision il y a 2 milliards d'années, c'est pas dit que nous en trouvions des traces. C'est ça que je voulais dire. Pas seulement les traces sur Terre qui sont vieilles, mais les traces à 330 millions de kilomètres au-dessus de nos têtes. Vous avez compris.
Alors,
vous
voyez. Oui, alors sur Terre, on les retrouve pas. Par contre, on visualise bien ces familles aujourd'hui. Mmh. C'est-à-dire qu'elles laissent... alors certainement, les petits fragments ne sont plus présents, mais on retrouve ces familles très aisément parce qu'elles ont laissé des fragments bien plus gros et ceux-là ont des durées de vie jusqu'à l'âge du système solaire. Et donc ces familles sont bien présentes, bien identifiées. Et c'est parce qu'elles sont d'ailleurs bien identifiées qu'on a fait des relevés compositionnels pour toutes ces familles, pour identifier lesquelles pourraient être les plus probables pour les chutes de météorites.
Pierre Vernazas, tout ce travail, donc l'idée de mieux comprendre et de caractériser ces centaines de milliers d'astéroïdes qui s'agglutinent à près de 300 millions de kilomètres au-dessus de nos têtes, ça permet de mieux comprendre l'origine de notre système solaire, j'imagine ?
Ça permet de mieux comprendre la formation du système solaire. Et une grande question que se posaient tous les chercheurs qui travaillent sur les météorites, c'était de savoir à quel point, si chacune de ces météorites avait finalement une source unique ou pas. Et avoir vraiment ce qui manquait à ces chercheurs, c'était le contexte précis dans lequel intégrer toutes leurs mesures ultra précises. Et donc, via cette étude, par exemple, on montre notamment que 70% des météorites proviennent essentiellement à l'origine de deux corps parents.
C'est ça. Voilà. Je parlais de la météorite qui a tué les dinosaures il y a 66 millions d'années. Elle vient de la même région, là, où vous le savez, ça ?
C'est autre chose. Et ensuite, ce qui est peut-être contre-intuitif, c'est qu'une source qui peut être très proéminente pour les météorites ne le sera pas forcément pour les gros astéroïdes géocroiseurs qui sont potentiellement dangereux pour notre planète. Et en l'occurrence, il y a 66 millions d'années, il y a très peu de chances que ces familles de météorites actuelles aient été la source de l'astéroïde qui a fait disparaître les dinosaures.
D'accord, mais ça nous fait le lien avec le podcast d'Ouma qu'on entendra tout à l'heure. Merci beaucoup Pierre Vernazza d'avoir percé donc les mystères de l'origine des météorites sur Terre. Je rappelle que vous êtes astronome, chercheur CNRS au laboratoire d'astrophysique de Marseille, co-auteur de l'étude. C'est une bonne journée dans le sud. Il fait quel temps là aujourd'hui ?
Un peu gris.
Bon, alors ça nous rassure. On n'est pas jaloux. Merci beaucoup. À suivre dans CQFD, un sujet santé, le témoignage d'Audrey, qui a appris à vivre avec la douleur, Théo Chavaillard.
La douleur due à une spondylarthrite, comment s'exprime cette douleur ou ces douleurs, devrait-on même dire, et quelles sont les pistes de soins de cette maladie? On va aborder tout cela dans quelques minutes.
Poussière sur cette terre, si on dézoomait le planisphère, je te tiendrai entre mes doigts, je te tiendrai entre mes doigts. Je ne sais pas si l'histoire retiendra ton nom, ton profil, si tu écriras un livre ou un opéra.
la stratosphère. C'est une fois par millénaire. C'est une fois par millénaire. T'es tout pour moi. T'es tout pour moi. T'es tout pour moi. T'es tout pour moi. T'es mon Amérique, t'es mon cinéma, mon roller coaster, mon alléluia. T'es ta dynamite, t'es mon calme plat. Avant toi, je n'existais presque pas.
Pour moi, c'était Clara Luciani.
CQFD, le magazine scientifique et médical de RTS La Première.
Des douleurs persistantes, des douleurs profondes qui ne s'arrêtent presque jamais, des raideurs matinales. On va se pencher à présent sur la spondylarthrite et ses conséquences sur le quotidien de celles et ceux qui en souffrent. Théo Chavaillat, la spondylarthrite, c'est d'abord une maladie inflammatoire, chronique, qui touche principalement la colonne vertébrale et le bas du dos, c'est ça?
Et en particulier les articulations situées dans le bassin, les articulations sacro-iliaques. La spondylarthrite, c'est une maladie auto-immune, donc un dysfonctionnement du système immunitaire, pardon, qui entraîne l'attaque par l'organisme de ses propres tissus. Et dans le cas de la spondylarthrite, elle le fait en touchant principalement par des inflammations des articulations de la colonne vertébrale et le bas du dos, du moins au début, parce qu'elle peut ensuite atteindre d'autres parties du corps. En Suisse, on compte environ 90 000 personnes qui à être touchées par cette maladie, une maladie qui pèse sur le quotidien de celles et ceux qui en souffrent, et ça vous allez l'entendre dans un instant à travers le témoignage d'Audrey. Audrey qui, elle, est atteinte de spondylarthrite indifférenciée.
Ah d'accord, donc ça veut dire qu'il y a plusieurs formes de spondylarthrite, c'est ça qu'on comprend. Bonjour Thomas Huglet.
Bonjour.
Vous êtes chef du service de rhumatologie du CHUV. Quelles sont justement les différentes formes de spondylarthrite, ou disons peut-être les formes les plus répandues et leurs différents symptômes?
Bon, la forme classique de la spondylarthrite, vous avez dit, hein, ça touche le rachis, le bassin, les tendons. Après, on a aussi la forme ankylosante, la spondylarthrite ankylosante. Ça veut dire il y a une ossification. Là, par exemple, le rachis peut se développer vers une colonne vertébrale en bambou, au pire des cas. Mais ça, c'est assez rare, touche plutôt les hommes. Et après, on a aussi des formes associées à la psoriasis, une maladie de la peau, hein, avec une inflammation chronique de la peau qui peut être associée à la spondylarthrite. Aussi l'inflammation de l'intestin, maladie de Crohn par exemple, qui peut être associée à la spondylarthrite. Aussi les formes réactives après une infection. Et finalement, cette forme de la spondylarthrite indifférenciée où les gens, disons, les symptômes ne remplissent pas les critères internationaux de faire ce diagnostic, ou pas encore. Parfois, ça peut s'évoluer vers une véritable spondylarthrite ou pas.
Ok, donc c'est pour ça qu'on l'appelle indifférenciée, parce qu'on a de la peine à la caractériser de manière précise, en fait.
Exactement.
C'est ça. Ouais. Mais du coup, ce qu'on peut dire que le point commun de ces différentes formes de spondylarthrite, c'est, comme le disait Théo, la colonne vertébrale, le bassin, on est toujours un peu, en tout cas au départ, dans cette région-là.
C'est un peu le moteur, hein, de ce rhumatisme, effectivement, lombaire. Classiquement, c'est des douleurs inflammatoires. Ça veut dire, c'est pas que pendant la journée quand on marche, mais c'est aussi la nuit. Parfois, ça va même mieux si on bouge. Hein. Ça, c'est un grand point pour différencier par rapport à, par exemple, une hernie discale ou une arthrose hein, du rachis. Et après, il y a effectivement les inflammations des articulations sacroiliaques. C'est des fessalgies plutôt, hein, des douleurs glutéales.
Glutéales.
Glutéales, ça veut dire au niveau des fesses.
Des fesses.
Lombaire bas, vraiment. Et pendant la nuit, ça c'est typique pour la spondylarthrite.
L'origine de la spondylarthrite, elle est pas forcément génétique.
Non, la génétique, ça joue un rôle. Hein. On a classiquement cette HLA-B27.
C'est un gène.
Un gène que, par contre, 4 à 8% de la population l'a. Donc, c'est pas forcément une maladie d'avoir ça. Ça veut juste dire le système immunitaire un peu plus actif. Hein. Ça présente les antigènes un peu plus volontairement aux autres cellules. Donc, on peut déclencher une inflammation avec des autres facteurs. Donc, il y a ce facteur génétique. Il y a probablement autre gène qu'on ne connaît pas encore ou qu'on ne mesure pas dans la routine. Mais il y a aussi des autres facteurs. Par exemple, les bactéries jouent un rôle, hein, le microbiote. Donc, c'est pour ça que ça peut être associé à l'inflammation intestinale. Je vous donne un exemple. Oui. Dans la recherche, dans les souris, on ne peut pas provoquer une spondylarthrite dans les souris stériles, sans une flore intestinale.
Ah.
Donc il faut des bactéries et il faut savoir que nous on a beaucoup de bactéries dans l'intestin et sur la peau, 10 puissance 12 bactéries, en fait c'est plus des bactéries que cellules humaines. Donc si vous voulez, c'est un combat chaque jour entre cellules humaines et bactériennes, mais on va bien, normalement la barrière fonctionne bien. Mmh. Mais si la barrière fonctionne pas bien, ça peut être un facteur important pour déclencher des poussées de spondylarthrite. Et finalement, on a des facteurs mécaniques. Donc on a des petites cellules immunitaires dans les tendons par exemple qui peuvent jouer un rôle aussi après des surcharges etc. pour déclencher une inflammation beaucoup plus que les courbatures normales.
Après un accident, par exemple.
Aussi, c'est décrit effectivement des poussées de ça après des accidents.
Théo, vous nous le disiez, vous avez rencontré Audrey chez elle. Elle souffre de cette maladie.
Absolument, j'ai rencontré Audrey à 48 ans il y a une douzaine d'années après des années à souffrir quasiment en silence. On lui diagnostique une spondylarthrite ankylosante, mais après quelques années de suivi médical, il semble qu'il s'agisse plutôt d'une spondylarthrite indifférenciée. Ça signifie donc des douleurs et une inflammation, mais sans les modifications typique observée dans la spondylarthrite ankylosante. Quoi qu'il en soit, pour Audrey, les douleurs, eh bien, c'est une réalité de chaque instant.
Avec le temps, j'ai observé que j'ai deux types de douleurs principales. J'ai des douleurs de fond qui sont permanentes, qui sont lancinantes, qui me lâchent jamais.
C'est tout le temps là.
Tout le temps, jour et nuit. C'est surtout au niveau du bas du dos, du bassin, tout ce qui est sacro-iliac, et puis la nuque. Et là, c'est lancinant, c'est permanent. Puis après, j'ai des douleurs qui sont plus vives, plus fulgurantes, qui peuvent être là pour quelques minutes ou pour 3-4 jours. Puis là, c'est vraiment des douleurs, ça me prend beaucoup d'énergie parce qu'elles sont très vives, quoi. Puis c'est très envahissant. Par exemple, même si je discute avec quelqu'un de la météo, je dois réfléchir vraiment. Ça me perturbe en fait ma concentration, ça me demande beaucoup d'énergie.
Vous arrivez à anticiper ces douleurs ? Il y a des circonstances particulières dans lesquelles elles apparaissent, ces douleurs plus vives ?
Alors c'est sûr que la météo, quand on est dans des temps froids, humides, c'est un peu mal barré, ça ne va pas être les meilleurs mois de l'année. Mais c'est sûr que vu que je puise un peu toujours dans mes réserves pour déjà gérer mon quotidien, c'est un peu comme si le matin, je me levais avec une boîte avec 10 jetons. Et puis j'ai 10 jetons d'énergie pour la journée. Et puis, si je passe mon aspirateur, ça va me coûter tant de jetons. Si je vais à un rendez-vous à l'extérieur, mais même ça peut être simplement d'aller boire un café avec des amis, ça va quand même me coûter de l'énergie.
Cette interview-là, elle vous coûte des jetons ?
Bien sûr, ouais. Tout mon quotidien me coûte des jetons, en fait. Puis la difficulté, c'est que la nuit, j'ai un peu de peine à en refaire des jetons parce que les positions statiques sont absolument un enfer. Je ne peux pas rester 20 minutes, une demi-heure dans la même position.
Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là ?
La douleur, elle est tellement vive que de toute façon, je me réveille et puis soit je me lève, je vais faire un peu les escaliers, je vais marcher, j'essaie de bouger un peu. Soit des fois, je n'ai même plus l'énergie de sortir du lit, donc J'essaie de me bouger dans mon lit comme je peux. Mais le problème, c'est qu'avec les heures qui passent, ben, je ne dors pas pour autant. Et puis, moi, en fait, je vais me bouger. Plus, en fait, je vais avoir de la peine à me bouger tout court. Et puis, finalement, j'arrive à 3-4 heures du matin, ou si je ne me tiens pas au cadre du lit ou comme ça, je ne peux plus du tout me bouger, quoi. C'est comme si ça se sclérose, en fait.
Aussi loin que vous vous souvenez, vous avez toujours eu ces douleurs. Évidemment qu'au début, vous ne saviez pas qu'il s'agissait de spondylarthrite.
Alors, vers la fin de mon adolescence, j'ai eu un grave accident de ski. Et puis, j'ai eu énormément de peine à me remettre de cet accident. Puis les médecins ne comprenaient pas vraiment. Je sentais dans le regard qu'ils se disaient « Ouais, c'est un peu... Peut-être qu'elle en fait un peu des tonnes. » Puis, j'ai pris sur moi. J'ai essayé de mettre ça de côté. Je suis devenue assez dure, du coup, face à la douleur. Parce
que... Vous avez aujourd'hui 48 ans. C'est à quel âge que vous avez réellement été diagnostiquée avec cette piste de la spondylarthrite?
J'avais dû avoir 36 ans. J'ai eu souvent le dos bloqué. J'avais souvent des douleurs. Puis des fois, j'avais des plaques rouges, j'avais des coups de chaud, j'avais de la fièvre. On ne savait pas pourquoi. Et puis, tous les temps de temps, ça revenait. On m'a fait passer des scanners pour voir si j'avais pas une sclérose en plaques, quelque chose comme ça. Ils n'ont jamais rien trouvé. Et puis, jusqu'au jour où j'ai eu une crise phénoménale, je suis passée par tous les états. On m'a fait plusieurs ponctions lombaires qui étaient très compliquées, très douloureuses. Enfin, c'était un enfer, quoi. J'allais aux toilettes à quatre pattes. Enfin, c'était absolument horrible. J'étais seule avec mes deux enfants. C'était vraiment très difficile. Donc, pendant plusieurs mois, j'étais vraiment souffrante. J'avais cette fièvre qui ne descendait pas. Et puis, finalement, j'ai été réhospitalisée. Puis là, très vite, un rhumatologue a dit « Mais c'est pas possible, les bilans sanguins, il y a vraiment quelque chose qui se trame. » Et puis, il m'a fait hospitaliser finalement dans son service, m'a fait état d'examen, puis c'était très très vite diagnostiqué après.
Douleur très impressionnante hein, dans le témoignage d'Audrey qui a finalement, voilà, elle les a intégrées ces douleurs à tel point que le diagnostic de la spondylarthrite est arrivé très tard. Ça, c'est un classique, Thomas Huglet?
C'est tout à fait classique. Hein. Le retard du diagnostic est classique dans la spondylarthrite. Souvent, on pense que c'est juste un peu mal au dos, lombalgie chronique, etc. Donc, souvent, c'est plusieurs années, hein, le retard. Donc, cet itinéraire ou patient journey, comme on dit, est un peu classique. Parfois, il y a aussi même une dépression qui se développe un peu en parallèle. Et après, on pense, voilà quoi, est-ce que c'est tout dans ma tête ou qu'est-ce qu'on peut faire? Et ici, c'est effectivement dans le son, j'ai l'impression, ce qu'elle a dit, que le rhumatologue a trouvé qu'il y a probablement une inflammation. Ça, c'est vraiment quelque chose, un indicateur qu'il y a un rhumatisme, une inflammation dans le son. On voit pas toujours, j'imagine qu'elle a fait aussi des IRM, etc., qu'on a pu faire le diagnostic finalement.
Et on le rappelle que Audrey est encore jeune, hein, je veux dire, elle a 48 ans, donc elle a effectivement, on a l'impression qu'on entend pas dans sa voix, mais je veux dire dans ses propos une dame beaucoup plus âgée. Et puis en fait, non, voilà, elle a pas encore 50 ans, elle souffre déjà de tous ces maux. On va revenir dans un instant avec vous, Thomas Huglet, sur les évolutions de cette maladie et sur tous les espoirs d'amélioration. Ce sera après cette chanson. Voici Tom Petty and the Heartbreakers, Learning to Fly, 10h28, CQFD.
Well, it started out down a dirty road. Started out all alone. And the sun went down as it crossed the hill. And the town lit up. The world gets still. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Well, the good old days may not return. Rocks might melt and the seed may burn. I'm learning to fly, but I ain't got wings.
will beat you down, break your heart, steal your crown. So I started out for God knows where. I guess I'll know when I get there.
Learning to Fly, donc cette chanson que nous proposait Willy, deux élus. Vous écoutez RTS La Première, nous nous penchons sur la spondylarthrite aujourd'hui dans CQFD avec Thomas Huglet. Je rappelle que vous êtes chef de service de rhumatologie du CHUV. La spondylarthrite, on le disait tout à l'heure, c'est une maladie auto-immune, donc un dysfonctionnement du système immunitaire qui entraîne l'attaque par l'organisme de ses propres tissus. Il y a quelques minutes, on entendait le témoignage d'Audrey que vous avez récolté, Théo Chavaya. Elle a vécu des années sans être diagnostiquée, en prenant sur elle, en se suradaptant à la douleur. Est-ce qu'aujourd'hui on a les moyens de dépister ce type de maladie rhumatismale au stade le plus précoce pour éviter ce qu'a vécu finalement l'enfer qu'on imagine, l'enfer de la douleur qu'a vécu Audrey?
Oui, on a l'IRM tout d'abord, hein, quand même du rachis et aussi des articulations sacroiliaques. Donc dans le bassin, ça c'est probablement là où on voit le plus fréquemment la différence entre une arthrose ou une discarthrose ou une hernie discale et une spondylarthrite. Mais souvent c'est un ensemble, donc ça reste quand même un ensemble. On utilise aussi des critères de classification pour voir si c'est effectivement une spondylarthrite. Dans le sang, on a des valeurs d'inflammation, ce test génétique, mais il manque un super biomarqueur. Ça manque effectivement. Donc ça reste un ensemble des symptômes cliniques, des résultats de l'IRM, voire dans le laboratoire.
Tout à l'heure, on le disait effectivement, Audrey, d'abord on a pensé que c'était une spondylarthrite ankylosante, puis après finalement on s'est dit, ah non, c'est plutôt une indifférenciée, mais est-ce que ça peut évoluer? C'est-à-dire que si, avec l'évolution de la maladie, tout à coup on pourrait passer cette spondylarthrite ankylosante, qu'est-ce que ça voudrait dire d'ailleurs pour Audrey?
Donc on utilise le terme ankylosante vraiment pour les cas avec une progression radiologique, ça veut dire cette ossification dans l'os. L'inflammation va finir dans une ossification.
La colonne en bambou, c'est ça?
Tout à fait, au pire des cas. Ça, c'est assez rare. Hein. C'est plutôt des hommes avec le gène positif, peut-être en 10%. Donc, la spondylarthrite classique, ça, c'est la maladie, la forme plus fréquente. Et en fait, tout ce qu'elle dit, ça parle pour cette forme.
Pour ça. Est-ce qu'il y a des périodes de la vie qui peuvent accentuer ou réveiller une spondylarthrite?
C'est une bonne question. Hein. Donc, les comorbidités, on a discuté comme les inflammations de la peau, de l'intestin. On a vu aussi parfois la surcharge mécanique ou des accidents peuvent déclencher cette maladie ou des opérations. Après, on a aussi un moment difficile au niveau hormonal pour le système musculosquelettique, c'est la périménopause, parce que l'os aime bien l'œstrogène, raison pour laquelle on peut développer l'ostéoporose après. Mais là, le corps est aussi on peut moins protéger contre l'inflammation. Donc ça, c'est souvent en rhumatologie autour des 50 ans aussi un moment parfois un peu difficile.
On va réentendre quelques instants Audrey que vous avez donc rencontré Théo. On imagine qu'elle suit évidemment un traitement plutôt rigoureux contre cette spondylarthrite indifférenciée.
Oui, assez lourd avec des immunosuppresseurs pour calmer ce système immunitaire qui se retourne contre elle, des opiacés qui lui permettent au réveil de se préparer en une heure alors qu'avant il lui fallait 3 à 4 heures à Audrey pour mettre son corps en marche. Et puis il y a le traitement auquel on ne pense pas directement qui est lié aux uvéites quand la spondylarthrite s'attaque aux yeux.
En gros, c'est quand vos anticorps, ils sont un petit peu attaqués à vos articulations et qu'ils ne savent plus trop aller grignoter, ils vont aller sur les yeux. Puis ça, c'est embêtant parce que potentiellement, ça peut atteindre la vue. Ça, pour moi, c'est ce qui est moralement le plus difficile. C'est les périodes où j'ai des uvéites parce que ça veut dire que je ne peux rien faire du tout. Parce que le meilleur moyen de protéger son œil de cécité future, c'est à ce moment-là de dilater en permanence l'œil pendant plus de 6 jours, vous voyez des deux yeux, vous ne voyez rien, vous ne voyez pas les mains. Et franchement, ça, pour moi, c'est un enfer, quoi. En plus, on est hyper photosensible, donc je suis avec des lunettes à soleil en permanence. Et puis ça, moralement, chaque fois que j'ai une UV, c'est vraiment le truc qui est dur, parce que je sais que pendant une semaine, 10 jours, 12 jours, eh ben, je peux strictement rien faire. Même pas lire ou cuisiner, enfin, je vois rien, quoi. La seule chose que je peux faire de mes journées, c'est écouter la radio.
Je ne sais pas si j'ose poser la question comme ça, mais l'avenir, vous le voyez comment ?
Alors ça, c'est la grande question qu'il ne faut pas trop se poser. Surtout quand il y a des jours où on est moins bien. Parce que avec les uvéites qui parfois sont bien présentes, eh bien, on me dit qu'il y a un risque de cécité. Ça fait franchement peur, quoi. Et puis après, globalement, sur les articulations, déjà avec l'âge, on sait qu'on s'ankylose et puis qu'on a de l'arthrose et on ne va pas forcément... voilà, on use nos articulations. Ben moi, j'ai déjà ça à mon âge. J'ai de l'avance, on va dire, sur le programme. Et puis du coup, ben, ça fait un peu souci parce qu'on me parle déjà d'opérations des genoux. Je sais qu'une prothèse a quand même une durée de vie. Moi, je me dis, mince, je suis encore jeune, quoi. On ne peut pas en faire 3 dans une vie. Donc, est-ce que dans 20 ans, même à mon rythme, même avec une canne, mais est-ce que je vais pouvoir encore aller marcher ? Ben, ça fait peur, en pensant à l'avenir, de se dire, ben, peut-être que dans 20 ans, je serai peut-être en fauteuil, je ne sais pas, j'en sais rien. Mais ça, la perte d'autonomie, ça fait peur, franchement.
On la comprend évidemment, Audrey. Thomas Huglet, je rappelle que vous êtes chef du service de rhumatologie du CHUV. Quels sont les traitements actuels de la spondylarthrite qui peuvent aider, voilà, des personnes comme Audrey?
Donc on commence classiquement avec les anti-inflammatoires classiques, hein, que vous connaissez, comme la voltarène, etc. Une partie des patients vont bien avec ça. Donc ils le prennent peut-être pas tout le temps, mais ils font des breaks, mais souvent ça va bien. Après, si ça marche pas, on a des biologiques. C'est un traitement qu'on connaît en rhumato depuis environ 25 ans. C'est des traitements ciblés, souvent des anticorps qui ciblent des médiateurs inflammatoires, comme par exemple le TNF ou le cytokine IL-17. Et ça permet de effectivement arrêter l'inflammation et, important aussi peut-être pour la patiente, de ralentir la progression de la maladie aussi au niveau radiologique. Ça a été montré dans différentes études aussi en Suisse d'ailleurs. Et après, on a aussi des médicaments oraux, c'est des inhibiteurs JAK. Qu'on prend, voilà, ça, on prend tous les jours, tandis que les autres deux médicaments, c'est des injections subcutanées. Donc, classiquement, c'est les trois axes de traitement. Si les articulations périphériques sont touchées, on a aussi des autres médicaments qu'on connaît, par exemple, de la polyarthrite rhumatoïde, comme le méthotrexate ou autre. Et après, il y a pas que les médicaments, c'est les exercices physiques, la physiothérapie qui joue un rôle, la nutrition. Et parfois aussi un support psychologique, parce que, comme on a dit, hein, c'est pas toujours facile à vivre avec. Donc parfois ça, c'est effectivement nécessaire aussi.
Le facteur psychologique, il est pris en compte dans le traitement de la spondylarthrite?
Pas forcément par les médicaments que je viens de décrire. C'est pour ça qu'il faut voir en parallèle s'il n'y a pas quand même une dépression. Et ça peut se développer dans jusqu'à 40% des cas en spondylarthrite, une fibromyalgie secondaire. Donc ça, on a vu, c'est plus fréquent par rapport aux autres rhumatismes que les gens peuvent avoir une fibromyalgie. Ça veut dire c'est des douleurs chroniques, mais c'est pas que la douleur, c'est aussi troubles de sommeil, la fatigue importante, une dépression, donc des réactions plutôt au niveau du système nerveux central. C'est pas imaginé, hein, c'est pas dans la tête, c'est des vrais mécanismes, mais plutôt central au niveau du système nerveux comme une réaction.
Est-ce que aujourd'hui il y a des moyens de, alors, est-ce qu'on peut stabiliser, voire avoir des espoirs de guérison ou de gestion à long terme? Est-ce qu'il y a des perspectives, prometteuses pour une rémission durable?
Ah, clairement oui, hein. On a beaucoup des cas et qui vivent complètement normal, hein. Ils ont une vie normale comme ils font leur travail, avec le médicament, le sport, vie privée, qualité de vie. Mais on a aussi des cas comme Audrey, hein, qui vont pas super bien, où il faut vraiment trouver l'équilibre au niveau énergie, au niveau des douleurs, au niveau de fonctionnement, au niveau privé, au niveau travail, etc. Mais globalement, je pense que la rhumatologie a quand même fait un grand progrès les dernières 10 à 20 ans avec les médicaments. On voit plus les gens aux chaises roulantes. Hein. Donc ça a énormément changé. Mais ça reste quand même un traitement multimodal souvent. Où il faut discuter avec le patient, il faut écouter pour bien choisir le bon traitement médicamenteux et autres.
La spondylarthrite, donc cette inflammation qui touche principalement, on le disait, la colonne vertébrale et le bassin. Merci beaucoup pour vos explications, Thomas Aiglé, professeur et chef du service de rhumatologie du CHUV. Merci pour nous avoir permis de mieux comprendre de quoi on parle, avec le témoignage également d'Audrey, son quotidien. On pense bien à elle. Elle se projetait tout à l'heure avec difficulté hein, dans les 20 prochaines années. Ben, on espère que on va pouvoir l'aider. Enfin, nous pas. Hein, Théo et moi, non.
La médecine.
Voilà. La médecine, c'est probablement plus là qu'elle va se tourner, elle y est déjà d'ailleurs, pour que les choses se passent le mieux possible. Merci beaucoup.
Merci.
D'avoir répondu à l'invitation de Théo Chavaya ce matin. Vous aimez les dinosaures, Thomas Aiglé?
Oui. Le Tyrannosaurus Rex a déjà eu la goutte, on a vu ça.
D'accord, je savais pas ça. C'est-à-dire
le patient plus âgé d'une goutte, on a trouvé ça, des chercheurs, que déjà les dinosaures ont eu la goutte. Ils ont mangé beaucoup de la viande.
Ah d'accord, c'est ça, à cause de ça. Donc il fallait, ils auraient dû être plutôt végétariens, c'est ça. Ouais.
Et le
vin blanc.
Peut-être ça peut provoquer la
bière. La bière est pire.
C'est ça. Bon, je sais pas s'il en sera question dans le quatrième épisode de Quoi de neuf Dino, puisqu'on s'intéresse aux dinosaures dans un instant. On verra ça avec Uma Camis, qu'on retrouve après Fanny de Poule.
On ira juste là où le soleil prend feu, où les étoiles s'allument, où le ciel se teint de bleu, où le gravier devient dune, où les orages boivent l'eau, où la flaque devient lagune, là où la goutte devient ruisseau. On ira juste là, là où les fleurs prennent racine, où l'oiseau apprend le vol, où la pente devient colline, là où la roche devient pétrole, où les ombres se dessinent, là où les rêves se bricolent, où la rose taille son épine. On ira jusque là. On ira juste là. On ira jusque là pour comprendre sans se parler. Les mots ne servent à rien parfois, les yeux sont mieux pour discuter. Regarde toutes ces choses qui sont nées avant qu'on parvienne à les voir. Pour passer une ligne d'arrivée, il faut bien un point de départ. On n'aura juste pas le temps de s'arrêter en chemin pour admirer le paysage de l'aube qui se pointe au matin. On aura du pain sur la planche et des montagnes à gravir. On tient le couteau par le manche, mais encore faut-il s'en servir. On sera juste toi et moi dans ce navire qui va nulle part. Et quand je compterai jusqu'à trois, on traversera le brouillard. Faudra s'accrocher au destin, c'est lui qui décide du voyage. Et si t'as pas le pied marin, je tiendrai ta main dans les virages. Pour aller juste là où les forêts sont boutures, où les tempêtes sont soupirs, où les falaises sont fissures, là où la lumière est lueur, où la bombe à chier pétard, là où le noir est une couleur, là où l'humain est un pétard. On ira tout là-bas, se confiner vers l'infini, pour voir ce monde qu'on pensait plat et cette lune qui nous sourit. On sera juste toi et moi, assis au milieu du passé, à épier l'infiniment peu pour se dire qu'on a tout gagné et qu'on a su défier les lois de ce futur bon à jeter, dans lequel même la vie se noie parce qu'elle est trop lourde pour flotter. On sera bien, tu vois, faudra seulement s'habituer à dormir dans les nuages en essayant de ne pas tomber. En restant juste là, là où le jour n'a pas d'heure, où les dates n'ont pas d'importance, où le fric n'a pas de valeur, où l'oxygène n'a pas de prix, où les coups n'ont pas de douleur, là où c'est moi qui te souris pour faire battre ton cœur. On ira jusque là.
Chop down, jump it, every day.
l'artiste biennoise Fanny De Poule. Et la bonne nouvelle, c'est qu'elle sort un livre sur sa vie. Voilà, elle raconte sa vie et puis aussi un peu en chanson. Eh bien, depuis qu'on l'a su, on la comprend aussi. On l'a compris effectivement. Extrait de cet album qui s'appelle Algorithme. Point de départ. Ça, c'était le nom de cette chanson. Voici le quatrième épisode du podcast imaginé par Uma Camis. Quoi de neuf, Dino? On retrouve Uma Camis et évidemment accompagnée de l'œuf.
RTS.
Salut, moi c'est Uma.
Et moi, c'est l'œuf.
Oui, un œuf de dinosaure qui parle. C'est extraordinaire, non?
Et si tu veux savoir comment on s'est rencontrés, Uma et moi, écoute les épisodes précédents. Parce que nous, là, on a autre chose à faire que de te faire des résumés.
Tu sais, l'œuf, si tu parles comme ça aux gens, pas sûr qu'ils aient envie de nous écouter. Hein.
Quoi de neuf, Dino?
Épisode 4.
Tu y es? T-Rex. Test. 1, 2, 1, 2. Test, test. 1, 2, 1, 2.
Qu'est-ce qui t'arrive, l'œuf? Tu as un chat dans la gorge? C'est quoi tout ce bruit?
Ben, je m'entraîne.
Tu t'entraînes à quoi?
Ben, pour quand je serai adulte. Quand je serai immense et féroce. Parce que je vais être T-Rex, moi, plus tard.
Ah, d'accord. Mais il y a un problème.
Quoi? Je fais pas assez bien le...
Non, non, il est super, hein. Tu as beaucoup de talent pour un œuf qui parle et qui m'a convaincu de le sortir d'un muséum. Sauf que tu n'es pas un Tyrannosaurus Rex.
Mais qu'est-ce que t'en sais? Moi, je le sens, je le sais, c'est tout.
Alors, ta fiche de prêt du Muséum d'Histoire Naturelle de Genève précise que tu es... un ampélosaure. Un dinosaure de la famille des titanosaures. Attends, je cherche sur Internet. Oh waouh, belle bête! Quand tu seras grand, tu feras 20 mètres de longueur, 4 mètres de hauteur. Ah tiens, d'ailleurs, je me demandais si t'avais une gorge. Tu as un super long cou, une toute petite tête et une très longue queue.
Ah ouais? Je me rends pas compte, c'est tout emmêlé là-dedans. J'ai même pas où et quoi.
Ah, et puis tu as des plaques sur le dos.
Comme le stégosaure?
Non, le stégosaure était bien plus petit que toi. Il ne faisait que 9 mètres de long. Et tu pèseras 15 tonnes. Ah, quand même. Oh, je vais devoir chercher un autre appartement. Hein. C'est envahissant, un ampélosaure de compagnie. Heureusement que tu veux pas sortir de ton œuf.
Un ampélosaure, j'y crois pas. Mais quel poisse! Moi, je voulais être un T-Rex. Les gens sont fans du T-Rex. Tout le monde s'en tape de l'ampélosaure. Mais si ça se trouve, mes parents avaient des fréquentations T-Rex. Et j'ai une influence majeure de T-Rex. Mais oui, c'est ça! Je le sais, je le sens. Je suis un ampélosaure ascendant T-Rex.
Pas possible.
Si.
Non. Tu as été pondu dans le sud de la France. Ça vient peut-être de là, ton petit accent. Donc, tes parents ou ta famille n'ont jamais rencontré de T-Rex. Les T-Rex vivaient, certes, à la même époque, mais dans ce qui est l'Amérique aujourd'hui.
Et alors, madame la journaliste scientifique?
Et alors, à cette époque-là, les continents européens et américains s'étaient déjà séparés. Tu n'aurais pas pu rencontrer de T-Rex ou avoir un parrain T-Rex à cause de la dérive des continents.
Alors là, ma vieille, j'y comprends rien à ton histoire de dérive des incontinents.
Dérive des continents. Et reste polie, s'il te plaît. Je suis pas si vieille que ça, par rapport à tes 66 millions d'années. La dérive des continents, je t'explique. Tu te souviens, les trois époques géologiques durant lesquelles ont vécu les dinosaures?
Trias, Jurassique, Crétacé.
Exactement. Le Trias commence il y a 252 millions d'années environ. Les dinosaures ne sont pas encore là. Ils apparaissent 12 millions d'années plus tard. À ce moment-là, tous les continents étaient regroupés en un seul bloc. Un bloc que les scientifiques appellent la Pangée. Et puis, au fil du temps, en raison de l'activité volcanique sous-marine, les continents se sont séparés. Un peu comme des pièces de puzzle qui flottent dans une soupe. À ton époque, le Crétacé, le nord de l'Amérique était déjà très loin du continent européen. Donc, les T-Rex et les ampélosaures n'ont jamais pu se rencontrer. C'est QFT.
C'est nul.
Mais non, c'est pas nul. Sachant que tous les dinosaures ont évolué à partir d'un ancêtre commun,
On peut dire que le T-Rex et toi, vous êtes des lointains cousins qui avaient vécu à la même période.
La classe. J'ai des cousins américains. Hello, my dear T-Rex. If you're listening to me, I'm a fan of you and I'm a cousin de surcroît.
Tu veux en rencontrer un?
Ouma, on part aux USA?
Non, yeah. On va pas si loin. Bon, on arrive, tu te tiens tranquille, hein. Tu bouges pas dans le sac, comme la dernière fois, hein.
Oui, promis. En fait, j'ai oublié de te dire.
Oui?
J'ai un peu peur du T-Rex. Il me pétrifie.
Mais tu es déjà pétrifiée. Tu es un fossile.
Peu importe. Je vais rester planquée dans ton sac. Et s'il décide de te manger, eh ben tu lâches le sac.
C'est un squelette. Il ne va rien te faire. Et d'ailleurs, elle s'appelle Trinity. C'est une femelle. Elle est exposée au musée des sauriens à Attal, dans le canton de Zurich.
Non, mais dans le doute, tu me laisses au vestiaire cette fois-ci.
Ok, ok. Si tu veux rester au vestiaire, tu restes au vestiaire.
Et tu reviens vite, hein.
Bon, écoute, je me dépêche. J'ai rendez-vous avec Marine. Elle prépare les fossiles et les rend présentables pour le musée. D'ailleurs, je la vois devant le T-Rex.
Bonjour.
Bonjour.
Marine, c'est moi.
Enchantée. Enchantée. Comment ça va?
Bien.
Oui, ça va.
On peut déjà aller voir la bête.
Oh, waouh. Il est immense. Elle.
On pense plutôt elle, parce qu'elle est plus massive, justement.
Waouh. Je vais essayer de compter le nombre de pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 pas. Au moins 15 pas. De la queue jusqu'à la tête. Et puis la hauteur, ouf, c'est bien...
Je crois que c'est plus ou moins 4 mètres au niveau de la hanche.
Donc ça, c'est un spécimen de T-Rex, mais en fait, on n'en trouve pas en Europe.
Non, on n'en trouve pas. Tout simplement parce que à la fin du Crétacé, donc à l'époque où il vivait, l'Europe, elle était pratiquement recouverte d'eau, donc d'océan, de mer, tout ça. Et les T-Rex ne sont pas des animaux marins.
Il est bien ton interview. Mais il y a un truc qui me tracasse. Puisqu'on n'habitait pas sur le même continent...
Oui.
Tu crois pas que Trinity, elle aurait pu me rejoindre à la nage?
Avec ses petits bras? Non, je pense pas.
Mais elle aurait pu venir à dos de spinosaures. Ils savent nager, eux. C'est prouvé scientifiquement.
Il y a 30 millions d'années d'écart entre les spinosaures et les T-Rex. Moi, je pense que les T-Rex étaient très contents sur leur continent. Et ce qui est sûr, c'est que leur notoriété a traversé les continents et les âges. Tous les enfants connaissent le T-Rex. Est-ce que c'était vraiment un animal redoutable?
Alors oui, tout simplement déjà, parce que c'est l'un des plus grands carnivores qui ait jamais existé. Il peut atteindre plus de 13 mètres de long, peser plusieurs tonnes aussi. Et il faut savoir que plusieurs études ont été faites sur la force de sa mâchoire. Et si je dis pas de bêtises, il a la mâchoire la plus forte qui existe.
C'est vrai qu'on va s'approcher de la mâchoire. Là, on voit des très longues dents.
Certaines dents qui ont été trouvées avec la racine comprise, elles font environ 30 cm de long.
Ah ouais. Alors là, on voit beaucoup de dents. Je vais essayer de les compter, tiens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 x 2. J'arrive à 56, c'est ça?
Oui, environ 60.
Avec des dents redoutables comme ça, manger de la viande?
Alors oui, principalement de la viande.
J'ai pas de légumes?
Non.
C'est peut-être pour ça qu'il est aussi redoutable, aussi méchant. Parce que les carottes, ça rend aimable.
Ah bah oui.
Tu ne ferais pas une petite fixette sur les légumes, toi?
Moi? Mais non, pas du tout. Qu'est-ce que tu t'aubergines? Non, non, moi, ce qui m'étonne surtout chez les T-Rex, c'est pourquoi ils avaient des si petits pois, des si petits bras.
Ah bon? Ils sont petits, leurs bras?
Ben oui, ils faisaient à peine 30 cm.
Ah, ils pouvaient pas se mettre les doigts dans le nez, alors?
Ni se gratter les fesses.
Alors tout ça, c'est tout simplement dû à l'évolution, en fait, des T-Rex et aussi de leurs ancêtres. Ils ont développé une tête de plus en plus énorme, avoir des bras C'est devenu vraiment inutile pour tout ce qui est chasse, pour manger leur nourriture.
Mais ça sert à quoi des bras comme ça? Il ne peut même pas se gratter.
Alors, apparemment, ces bras, ils avaient quand même une utilité, parce que sur les os, il y a des marques qui montrent qu'il y avait beaucoup d'attaches musculaires. Donc, c'est possible que c'était soit pour, par exemple, se relever quand ils sont couchés ou à terre, ou simplement lors de l'accouplement.
Mais il n'utilisait pas ses bras pour porter des aliments à la bouche, puisque c'est pas
si long. Non, il peut même pas atteindre sa bouche avec ses bras. Donc, c'est comme ça, quand on fait tout avec la bouche, on n'a plus besoin de bras.
Merci. À bientôt, Marine.
À bientôt. J'espère que vous avez passé un agréable voyage à travers le temps avec le T-Rex.
Ah ouais, je comprends pourquoi tu voulais être un T-Rex. Oh, elle était impressionnante, Trinity. Bah, qu'est-ce qu'il y a? Tu boudes?
Prochaine arrêt.
L'œuf?
Genève.
Oh, j'ai oublié mon sac dans le vestiaire. Et l'œuf dedans.
T'es vraiment une très mauvaise baby-sitter. T'imagines si t'avais dû dire au muséum que tu m'avais perdue au fin fond de la Suisse allemande?
Oh, ça va, je suis revenue te chercher. Tu vas pas m'en vouloir pour quelques heures dans un vestiaire, alors que t'as passé 30 ans dans l'armoire du muséum à Genève.
Moi, je dis surtout qu'on aurait dû ramener Trinity à la maison. Elle aurait pu faire partie du podcast. Elle sait sûrement des tas de choses sur les dinos de son époque, puisqu'elle les a sûrement tous goûtés. Les uns après les autres.
Oh non, ce serait dommage de garder un squelette chez soi. Les scientifiques n'y auraient pas accès. Non, franchement, c'est quand même mieux de laisser les T-Rex dans des musées. D'ailleurs, Trinity, elle part en Belgique d'ici quelques temps.
Et nous alors, on va où?
Ah, ça c'est une surprise. Et c'est pour le prochain épisode.
Dino, I don't speak English and I'm not a T-Rex, but I know un tas de trucs sur les dinos. Alors si tu as des questions, écris-nous à podcast@rts.ch and see you au prochain épisode, baby. Bye bye. Hey, ouah.
Oui.
Tu me dis alors qui on va voir?
Emily.
Ah, Emily du Muséum d'Histoire Naturelle de Genève. Mon Emily. Emily, celle qui est jolie.
Oui, et en plus, on en profitera pour prendre des nouvelles de la fouille. Tu te souviens? Les paléontologues nous ont écrit l'autre jour. Ils nous disent qu'ils ont trouvé un nouveau squelette de dinosaure afrique en Argovie.
Franchement, je vois pas pourquoi ils veulent encore ramener des fossiles alors qu'ils m'ont, moi, sous la main. Mais t'attends quoi pour lui écrire? Envoie-lui un ptérosaure voyageur. Fais quelque chose. Vas-y, fixe-lui rendez-vous maintenant.
Promis, je lui écrirai demain.
Non, maintenant.
Oh, mais t'as qu'à lui écrire, toi. Ah non, c'est vrai. T'as pas de bras. Et pas de bras, pas de...
Et je te préviens, si tu te moques encore de moi, quand je sors de mon œuf, je te croque toute crue.
Je te rappelle que tu es un ampélosaure. Un titanosaure, certes, mais tu es végétarien. D'ailleurs, t'as même pas de joues. Et pas de joues, pas de bisous.
Tu me casses les pieds. Quand je sortirai, je te marcherai sur les orteils avec mes 15 tonnes. Quoi de neuf, Dino? Un podcast de la RTS en collaboration avec le Muséum d'Histoire Naturelle de Genève.
Avec Marine André, préparatrice en fossiles, au Musée des Sauriens à Atal.
Et on se réjouit de les retrouver les deux, bah oui, au Macamis, l'œuf, c'était une réalisation de Jérôme Nussbaum pour cette série de podcasts. Quoi de neuf, on les retrouvera, quoi de neuf Dino, on les retrouvera demain pour les épisodes 5 et 6. Et si vous avez encore, vous n'avez pas la patience d'attendre d'ici à demain, vous pouvez retrouver tout cela évidemment sur Play RTS, puisqu'on a toutes nos émissions radio, on a toutes nos émissions télé et on a tous nos podcasts aussi. Voilà, il y a plein de choses. C'est super. On vous recommande de passer par cette plateforme, évidemment. Merci à Jorel Ayer pour la réalisation de l'émission aujourd'hui, Annette Kléber, notre attachée de production, Adriano Cor et notre éditeur numérique, et Willy Deselu a choisi la musique.
CQFD, Stéphane Gabiou.
La suite de votre matinée se poursuit avec Tribu. Vous avez rendez-vous avec Julien Magnolet juste après les infos qui arrivent. Julien qui s'intéresse au succès des cafés de spécialité. Il est 11h sur RTS La Première.